RFI, il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti des Amériques avec vous, Marie Normand. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Les FARC se sont officiellement donné un nouveau nom, le nom d'un parti politique. Même si l'acronyme a été conservé, c'est le symbole de la reconversion de l'ancienne guérilla colombienne. Et ce parti ne serait pas si mal placé pour les élections l'année prochaine. À la une, aussi après les dévastations liées à Harvey aux États-Unis, un autre ouragan majeur se rapproche des Caraïbes. Sa trajectoire reste à confirmer. Haïti dit au revoir au casque bleu de la MINUSTA après 13 ans de mission. Le contingent a défilé une dernière fois hier soir. Reportage d'Amélie Baron dans ce journal. Nous irons aussi au Guatemala. Le président a déclenché une crise politique en essayant de faire expulser un magistrat, le chef d'une mission de l'ONU. Il est accusé, on le verra, d'avoir cherché à entraver une enquête en cours. Nous appellerons notre correspondant. Et c'est donc un grand moment pour les FARC en Colombie. Après avoir signé la paix, l'ex-guérilla devient un parti politique. C'était la une de votre revue de presse, Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour Marie.
Et ce nouveau parti, il s'appellera FARC.
Oui, FARC, pour Force Alternative Révolutionnaire Commune, explique El Espectador. Et donc, à partir de maintenant, Marie, il ne faut plus dire les FARC, mais la FARC. Ce nom a été choisi par 628 délégués contre 264 qui lui avaient préféré le nom de Nueva Colombia, Nouvelle Colombie. Comme sigle, la FARC s'est donné une rose avec une étoile au milieu, rapporte encore El Espectador. Aujourd'hui, ce nouveau parti colombien doit annoncer son projet et ses candidats pour les élections de 2018.
Et à en croire un sondage publié hier par l'Institut Gallup, la FARC donc n'est finalement pas si mal placée au moment de son entrée dans l'arène politique.
Oui, selon ce sondage, écrit La Nation, la FARC peut compter sur 12% d'opinion favorable contre 4% d'opinions défavorables, mais, et c'est là que cela devient intéressant, les partis traditionnels colombiens ne jouissent plus que de 10% d'opinions favorables contre 87% de défavorables. Des chiffres surprenants, certes, mais qui s'expliqueraient avant tout par les nombreux scandales de corruption qui touchent la classe politique colombienne.
Et direction les États-Unis, maintenant toujours en suivant les unes des journaux, Stéphanie. Au Texas, l'inquiétude grandit après les explosions, qui se sont produites hier dans l'usine chimique du groupe français Arkema.
Oui, la crise de Crosby, une localité près de Houston, a mis en lumière la vulnérabilité des centaines d'usines chimiques situées dans des zones à faible altitude sur la côte du Golfe américain, constate le Washington Post qui poursuit. L'usine de Crosby constitue un signal d'alarme pour tout un secteur industriel qui n'a pas pris les mesures adéquates après les leçons de l'ouragan Katrina ou du désastre nucléaire de Fukushima au Japon. Le Texas compte pourtant 1300 usines chimiques, souligne le quotidien, dont la plupart se situent sur des terrains près de la mer et sont donc vulnérables au risque d'inondation.
Et alors que les États-Unis ont toujours les yeux rivés sur les conséquences du passage de Harvey au Texas et en Louisiane, eh bien un autre cyclone est déjà en route.
Irma est désormais un ouragan majeur, préviennent les météorologues du National Hurricane Center à Miami. En seulement 2 jours, cette tempête tropicale s'est transformée en un ouragan de catégorie 3 sur une échelle, comme vous le savez, qui compte 5 catégories. Ce phénomène, les spécialistes l'appellent intensification rapide, rapporte le site de la chaîne CNN. Selon les prévisions, l'ouragan Irma va continuer à se renforcer alors qu'il se dirige vers l'ouest pour les 5 jours à venir. Il devrait passer en catégorie 4 aux portes des Caraïbes.
Alors pour l'instant, Stéphanie, les modèles prévisionnels divergent sur le trajet que pourrait prendre Irma la semaine prochaine.
Deux possibilités, Marie, explique CNN. Soit Irma fait sa rentrée dans les Caraïbes, soit elle passe au nord et s'éloigne donc des côtes caribéennes. Après le week-end, nous devrions avoir une meilleure visibilité sur le trajet de cet ouragan extrêmement dangereux, explique un météorologue à CNN avant de conclure. Irma est d'ores et déjà un ouragan puissant qui va se renforcer encore davantage. Les habitants des Caraïbes et de la côte sud-est américaine devraient l'observer donc de très très près. Et
vous restez avec nous, Stéphanie Schuller. Un mot maintenant de la fermeture prochaine du consulat russe à San Francisco. Francisco. La Maison Blanche l'a ordonné, elle doit intervenir cette fermeture d'ici demain. Même chose pour les missions commerciales russes à Washington et à New York. Mesure de réciprocité, de parité, expliquent les États-Unis, car plus de deux tiers du personnel de ces représentations diplomatiques ont dû quitter la Russie. Moscou déplore de son côté une escalade. Autre information à propos des États-Unis. Cette semaine, plusieurs villes remettent en question l'image de Christophe Colomb. L'explorateur est célébré, vous le savez, pour avoir découvert le continent en 1492. Mais il est aussi accusé d'être le complice d'un génocide, le génocide des Amérindiens. Alors New York pourrait décider de retirer sa statue et plusieurs autres villes, dont Los Angeles cette semaine, ont décidé de remplacer le Columbus Day début octobre par une journée des peuples indigènes. Et la correspondance de Grégoire Pourtier.
Certains Amérindiens étaient venus plaider leur cause en tenue traditionnelle devant le conseil municipal de Los Angeles. Par 14 voix contre une, il a finalement été décidé de créer une journée des peuples indigènes en remplacement de Columbus Day, jour férié national célébrant Christophe Colomb depuis 1937. Après Phoenix, Seattle, Denver, Portland et d'autres, c'est une nouvelle victoire pour les peuples originels des États-Unis et pour tous ceux qui considèrent que l'explorateur italien est l'un des responsables du massacre de millions de personnes. Ce n'est encore qu'un tout petit pas pour réparer les dommages qui ont été causés, a expliqué un élu de Los Angeles. Il faut surtout changer l'enseignement qui est fait sur cette question à l'école, a rappelé le conseiller municipal d'une ville du Maine qui a pris la même décision à l'extrême opposé du pays. Construit grâce à l'immigration, les États-Unis sont ainsi en pleine réflexion sur la manière dont ils doivent considérer leur histoire. Un élu de l'Ohio précise toutefois que dans ces cas précis, c'est bien la personne de Christophe Colomb qui est visée, sans que cela ne remette en cause tous les bénéfices apportés par exemple par les Italiens, venus ensuite chercher fortune dans le Nouveau Monde. Grégoire Pourtier, New York, RFI.
La suite de la revue de presse des Amériques, toujours avec vous Stéphanie Schuller. Le département américain de la sécurité intérieure a annoncé hier avoir choisi 4 entreprises du bâtiment pour construire les prototypes du fameux mur promis par Donald Trump le long de la frontière mexicaine.
Oui, les prototypes seront construits en béton, Marie. 4 autres prototypes érigés dans des matériaux alternatifs vont suivre. Les noms des entreprises en charge de leur construction seront annoncés la semaine prochaine. Alors chaque bout de mur fera 10 mètres de long. La hauteur divergera selon le modèle entre 5 et 10 mètres, annonce The Hill. Le quotidien de Washington rapporte les propos du service des douanes et de la protection des frontières qui a annoncé hier le prix de ces constructions entre 400 et 500 000 dollars. Rappelons, Marie, que le financement du mur dans son ensemble n'est toujours pas assuré et qu'il fera objet d'intenses négociations au Congrès dès la semaine prochaine.
Et pour finir, les autorités haïtiennes mettent les bouchées doubles. Elles veulent convaincre Washington de prolonger encore une fois le statut spécial, le TPS, accordé aux ressortissants haïtiens aux États-Unis.
Et il ne leur reste désormais que quelques petites semaines, puisque les Américains doivent annoncer leur décision en novembre. Le Nouvelliste rapporte aujourd'hui que le gouvernement de Port-au-Prince mobilise, je cite, « la grosse artillerie ». L'ambassade d'Haïti à Washington multiplie les rencontres avec les autorités américaines, mais aussi avec les parlementaires, les avocats d'immigration et les associations de terrain. L'objectif, obtenir une nouvelle prolongation de 18 mois du TPS, ce statut de protection accordé aux Haïtiens après le tremblement de terre de 2010, afin de pouvoir préparer le retour de certains d'entre eux en Haïti. Mais, comme le fait remarquer l'ambassadeur d'Haïti à Washington, un nombre important de détenteurs du TPS peuvent aussi prétendre au statut de résident permanent aux États-Unis.
Stéphanie Schuller pour la revue de presse des Amériques, à relire comme chaque jour sur notre site rfi.fr. Un gros plan maintenant sur le cas Ivan Velasquez au Guatemala. Depuis dimanche, le pays traverse une grave crise politique déclenchée par le président. Patrick Jeunebœuf, notre correspondant dans la région, est avec nous en ligne pour en parler. Alors, Jimmy Morales a donc ordonné l'expulsion du chef d'une mission de l'ONU. Sa décision a provoqué un tollé général, des manifestations dans tout le pays. Comment expliquer cette réaction de la population ?
Alors, parce que le président s'est attaqué à Ivan Velasquez, le chef de la CICIG, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, en le déclarant persona non grata et en décidant de l'expulser immédiatement, Jimmy Morales prenait un risque, celui de s'attirer les foudres de nombreux Guatémaltèques, pour qui ce magistrat colombien, nommé par les Nations Unies, est le symbole de la lutte contre la corruption. Et pour cause, c'est lui qui, en 2015, avait révélé un scandale au sein des douanes. Son enquête avait entraîné ni plus ni moins que la démission et l'emprisonnement du président de l'époque, Otto Pérez. Il était accusé d'être à la tête d'un réseau qui fermait les yeux sur des fraudes fiscales en échange de pots de vin.
Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il voulu prendre le risque de l'expulser ?
Alors officiellement parce qu'il considère qu'Ivan Velasquez a excédé les limites de son mandat en s'immisçant dans les affaires intérieures du Guatemala. Un argument sans fondement mais qui n'est pas nouveau. Car depuis que la CICIG a été installée au Guatemala en 2007, elle a régulièrement été accusée de violer la souveraineté nationale. Une accusation proférée par certains secteurs qui veulent freiner les enquêtes de cette commission indépendante dont le mandat est d'éradiquer la corruption et les activités mafieuses au sein de l'État. En réalité, ce qu'a cherché Jimmy Morales, c'est d'entraver le cours de la justice. Pourquoi ? Parce que le chef de la CICIG, en collaboration avec la procureure générale, venait de lancer une procédure visant à lever l'immunité du président, soupçonné de financement illégal de sa campagne électorale en 2015.
Et est-ce que cette demande d'expulsion a suffi à freiner cette procédure ?
Bon, grâce à son inexpérience politique, cet ancien acteur comique n'a rien pu empêcher. La Cour de constitutionnalité a suspendu l'expulsion d'Ivan Velasquez, qui continue à la tête de la CICIG. La décision de la Cour suprême sur la levée de l'immunité du président est attendue dans les prochains jours. Et tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de plonger son pays dans une grave crise politique. Plusieurs ministres qui s'opposaient à la décision ont été limogés ou ont démissionné. Tous les jours, les Guatémaltèques descendent dans la rue pour exprimer leur mécontentement et certains craignent que cette crise conduise à une instabilité du pays et même qu'elle le rende ingouvernable.
Merci Patrick Dunbuff, correspondant de RFI dans la région.
Cap Haïtien, 100.5 FM.
Une page de l'histoire d'Haïti est en train de se tourner. La MINUSTAH, la mission des Nations Unies, achève son mandat et ses effectifs vont maintenant quitter le pays progressivement à partir d'aujourd'hui et déjà depuis quelques mois. Cela fait 13 ans bientôt que le pays compte des casques bleus sur son sol. Hier soir, à Port-au-Prince, s'est déroulée la cérémonie officielle de clôture des opérations militaires en présence du ministre brésilien de la Défense, le Brésil qui formait le gros des troupes. Reportage Amélie Baron.
Sur la base brésilienne de la MINUSTAH, l'heure est au défilé des troupes. Le contingent défile pour une dernière fois en Haïti, devant les soldats au garde-à-vous, le général Ajax Porto, qui dirige la composante militaire de la mission onusienne, a fait part de sa grande satisfaction sur ses 13 années de mission, en large majorité brésilienne.
Cette cérémonie est spéciale, non parce qu'elle signe la fin du travail du 26e bataillon du Brésil, mais surtout parce qu'elle représente la fin d'un glorieux cycle mené par les troupes brésiliennes. Vous avez fait votre travail, terminer ce cycle, mener la difficile tâche de la démobilisation et vous rentrer dans votre pays avec la sensation du travail accompli.
Assistant au défilé militaire, Sandra Honoré, la chef de la MINUSTAH depuis maintenant plus de 4 ans, a elle aussi tenu à saluer les efforts qu'ont fournis les soldats brésiliens, notamment dans la lutte contre les gangs des quartiers populaires.
Dans des quartiers comme Bel Air et Cité Soleil, vous étiez fréquemment la cible d'hostilité et faisiez face à de multiples menaces physiques. Mais vous avez persisté avec professionnalisme, dévouement et humanité dans vos efforts pour stopper la violence perpétuée par quelques-uns et pour restaurer la paix souhaitée par tant de gens.
En 13 ans de mission, l'action des casques bleus ne s'est pas limitée à la réduction de la violence dans la capitale. Face aux catastrophes naturelles qui ont sévèrement touché le pays au fil des années, les militaires ont été d'une aide cruciale, comme l'a rappelé Sandra Honoré.
Sans votre excellent travail, l'exécution du mandat de la mission après le séisme ravageur du 12 janvier 2010 aurait représenté de bien plus grands défis. Les troupes d'infanterie et les Marines du bataillon brésilien ont patrouillé dans les points clés de la capitale pour procurer de la sécurité et rassurer la population vivant dans des camps. Le corps du génie a dégagé des routes, ce qui a été essentiel pour le déploiement de l'assistance humanitaire. De façon similaire, votre aide, à la suite du cyclone Matthew, l'an dernier, a été vitale. En plus de créer les conditions pour le déploiement de l'aide humanitaire, vous avez rétabli l'accès sur des routes permettant la livraison du matériel électoral pour les élections du 20 novembre dernier, qui ont été un tournant dans la consolidation de la stabilité institutionnelle qui est manifeste aujourd'hui en Haïti.
Saluer le travail bénéfique accompli par les militaires pendant ces 13 dernières années, c'était le but de cette cérémonie organisée hier soir par les Nations Unies, sur la base des Nations Unies. Donc sans surprise, pas un mot n'a été prononcé sur les zones d'ombre de la mission, sur les crimes commis par certains casques bleus de la MINUSTA, notamment des crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des enfants haïtiens. Pas un mot non plus sur l'épidémie de choléra qui a été introduite dans le pays par des casques bleus népalais. Le bilan est lourd, déjà plus de 10 000 morts en 7 ans. Le bilan est d'autant plus lourd que le fonds d'aide aux victimes est un fiasco. Les pays membres des Nations Unies n'ont pas même encore financé 3% des 400 millions de dollars requis. Le départ des militaires marque la fin proche de la MINUSTA, mais au-delà des améliorations sur le plan sécuritaire, c'est une fin de mission qui laisse donc un goût amer aux Haïtiens. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Marie Bochet.
Bonjour Marie.
En Guyane, les syndicats de l'éducation se disent inquiets pour la rentrée scolaire.
Oui, pour eux, l'application des différentes réformes du gouvernement est tout simplement impossible en Guyane. C'est en tout cas ce qu'affirme le syndicat SEUNSA. Selon eux, sur le papier, les réformes sont bonnes, comme le dédoublement des classes de CP, mais la réalité sur le territoire guyanais est tout autre. Ocelia Cartes, Guyane Première.
La mise en œuvre de la réforme 100% de réussite au CP, aussi appelée CPA12, n'en finit pas d'inquiéter les enseignants. Chez nous, le recteur d'académie avait déjà annoncé avant les grandes vacances mettre en place en septembre le dispositif. C'était bien trop tôt d'énoncer le SEUNSA. Les affectations dites mouvement avaient été faites. Le recteur préconisait donc de réquisitionner les enseignants dits plus de maîtres que de classes. Nathalie Alfred Renard rappelle que le syndicat est favorable pour le dédoublement des classes, mais pas à n'importe quel prix. La secrétaire générale.
L'enseignant qui s'est positionné sur ce poste avait au départ d'autres missions qui étaient d'être un enseignant supplémentaire pour permettre à d'autres dispositifs de fonctionner au sein de l'école. 8 classes fonctionneraient normalement dans un local, alors que les autres, parce que le recteur propose 131 classes fléchées dans ce dispositif, donc ce serait de la co-intervention.
Le SEUNSA dénonce également le gel des contrats aidés. Selon le syndicat enseignant, l'académie enregistrait 800 emplois. Ils sont désormais près de 200.
En Martinique, la question du drapeau aux quatre serpents fait débat. Ce drapeau qui flottait sur les navires qui pratiquaient la traite négrière est devenu l'emblème de la Martinique. Alors, faut-il le garder ou pas ? Alain Livory pour Martinique Première.
Présent lors des compétitions sportives ou encore lors de représentations politiques officielles à l'extérieur de la Martinique ou même dans certains lieux publics, le drapeau aux quatre serpents est controversé et les demandes de son retrait sont récurrentes. Pour certains élus, c'est un emblème à bannir. Écoutez le député Jean-Philippe Nilor.
Ce drapeau ne représente pas la Martinique. Il ne donne pas une bonne image de la Martinique, mais rappelle plutôt des périodes les plus douloureuses dans notre histoire.
Pour le député européen Louis-Joseph Mansco, la politisation autour du drapeau aux quatre serpents peut être apparentée à de la manipulation.
Écoutez, moi je suis fier de mon identité. J'ai une identité martiniquaise, je suis fier de l'être. Je pense que la Martinique est un peuple. Mais moi, c'est cette dimension politicienne que l'on veut donner aujourd'hui qui, au moment où on est confronté à un tas de problèmes sociaux, problèmes, difficultés auxquelles se trouve confrontée la Martinique, je pense que les élus auraient dû se rassembler pour pouvoir faire avancer le pays.
Quelle que soit l'orientation, garder ou pas le drapeau aux quatre serpents, les Martiniquais devraient pouvoir se prononcer et être associés à toute forme de décision. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
Enfin, en Guyane, 24 puits d'orpaillage clandestins ont été détruits dans la région de Maripasoula. C'est la troisième opération de ce type en 2017 et cela porte le nombre de puits détruits à 47 depuis le début de l'année. C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous et bonne journée Marie.
Merci Marie Baucher à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Antonin Dulet. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Votre journal dédié aux Amériques revient lundi à 12h10, temps universel, 8h10 si vous nous écoutez en Haïti, à Jérémy par exemple. Vous pouvez bien sûr réécouter ce journal sur notre site internet rfi.fr et rejoindre notre nouvelle page Facebook Journal d'Haïti et des Amériques. À bientôt.
Le MUCEM à Marseille présente l'exposition Aventuriers des mers, de la Méditerranée à l'océan Indien, du 7e au 17e siècle. Découvrez les trésors des navires qui transportaient l'or, l'encens, la soie et les épices. De l'Empire perse aux navigations musulmanes, des explorations chinoises aux aventures portugaises en mer des Indes, venez explorer 1000 ans de l'histoire. Aventuriers des mers, une exposition au MUCEM, en partenariat avec RFI jusqu'au 9 octobre. Plus d'infos sur rfi.fr.